RCF.
Anaïs Kemener, je vais être direct et franc. Votre histoire personnelle, votre parcours, votre courage m'ont édifié, impressionné. Vous avez aujourd'hui 33 ans, vous êtes aide-soignante dans un hôpital de la région parisienne. En 2016 et en 2022, vous avez été championne de France du marathon, cette course mythique de plus de 42 km. Mais en 2015, un an avant votre première victoire, on vous décèle un cancer au sein, un cancer agressif de type 3. Le combat que vous allez mener contre cette maladie, votre passion pour la course, l'esprit d'équipe, l'amour de vos proches, bien vous le racontez dans un livre émouvant publié chez Flammarion et intitulé « Tout ce que je voulais, c'était courir ». Alors je suis vraiment ravi de vous rencontrer aujourd'hui, Anaïs Kemener, pour évoquer à la fois votre passion pour la course, bien sûr, mais aussi la manière dont vous avez traversé l'épreuve de la maladie et puis aussi ce beau métier de service et de soins que vous faites. Alors vous dites que votre mantra est « persévérer, ne rien lâcher ». Qui vous a transmis cette phrase qui guide votre vie ?
Je pense que ça vient de mon éducation, hein. Ça a toujours été. C'est un peu comme quand on dit aussi se surpasser, se dépasser quand tout va bien, se surpasser quand tout va mal. Je pense que ça, c'est une phrase qui me correspond bien aussi.
Et alors, qui vous a transmis ça ? C'est votre père ? C'est votre grand-père ?
Je pense que c'est un peu des deux, ouais. Chacun a fait son petit chemin et effectivement, je pense que ça vient de l'éducation de par mon père, qui vient de son père, etc., etc.
On voit en lisant votre livre à quel point ces deux hommes ont compté dans votre vie. Alors on va d'abord parler de votre grand-père, votre grand-père breton, donc votre grand-père paternel. Et qu'est-ce qui vous a transmis, lui, d'essentiel ?
Je pense que c'est simplement les valeurs de la vie, enfin de vouloir faire beaucoup de choses, enfin de vouloir faire du sport, de vouloir se dépasser, d'être je dirais plutôt bon partout, enfin en tout cas de vouloir faire beaucoup d'activités et d'avoir toujours en ligne de mire cet objectif de plaisir.
Le plaisir, mais être bon quand même. Être parmi les meilleurs. Il y avait un esprit compétition chez votre grand-père ? Parce qu'il avait l'air drôle, enfin humoriste, hein, comme vous le décrivez.
Ouais, pas tant que ça, il n'y avait pas vraiment de notion de performance et de compétition. C'est-à-dire qu'il voulait toujours qu'on aille le plus loin possible, mais pas forcément contre les autres. Surtout contre soi-même.
Et votre père ? Parce qu'alors lui, on va le voir, on va le rencontrer à plusieurs reprises, hein. c'est votre mentor, c'est votre coach, pendant votre maladie, il a été vraiment proche de vous, c'est un homme, Jean-Yves, hein, qui...
C'est ça.
Important.
Oui, bien sûr, ouais. C'est le plus important, je pense, parce que c'est lui qui m'a transmis toutes les meilleures valeurs, je pense, et qui a fait de moi celle que je suis aujourd'hui.
Un grand sportif, lui aussi ?
Oui, très grand sportif. Lui, il était beaucoup plus compétition que mon grand-père. Et c'est vrai que lui, il a fait beaucoup de championnats de France, de cross, il a fait de la piste aussi, donc des compétitions en steeple.
Mais c'était pas son métier, hein. Pas en professionnel.
Non. Il était pompier de Paris à côté. Ouais. Et il a toujours fait ça à côté, c'était sa passion.
Donc là, c'était son métier, pompier de Paris. Pompier de Paris, c'était professionnel. Son métier. Oui. Et là, il est devenu votre entraîneur tout de suite. C'est lui qui vous a accompagné dès que vous étiez petite, que vous avez commencé à courir.
Il est devenu mon entraîneur, mais c'est vrai que ça a été un choix. Dès le départ, on avait deux choix. Mon père faisait de la gym aussi à haut niveau et de la course à pied. Et disons que ma direction était la sienne, entre guillemets. C'est-à-dire que si je choisissais de faire de la gymnastique, il prenait le chemin de la gym. Et si je décidais de faire de la course à pied, il prenait le chemin de la course à pied.
Je vous accompagnais toujours.
C'est ça.
Et c'est vous qui avez choisi librement les sports que vous vouliez pratiquer.
C'est ça.
Et le fait que vos parents soient divorcés, ils se sont séparés, vous étiez très jeune, ça vous a beaucoup rapproché de votre papa ?
Oui, on était déjà très proches et très complices. Et je pense que forcément, le divorce de mes parents à l'âge de 9 ans, moi qui faisais déjà beaucoup de sport et qui était déjà très proche de mon père, ça nous a d'autant plus rapprochés.
Déjà à 9 ans, vous faisiez beaucoup de sport.
Oui.
Vous avez commencé à quel âge à courir ?
Je pense que j'ai toujours couru dans mon enfance, mais ma première compétition, c'était à 7 ans. Et j'ai commencé en club à l'âge de 9 ans.
Première compétition à 7 ans ? Vous vous rappelez de ce moment où vous avez mis votre dossard à 7 ans ?
Je m'en rappelle. Un peu comme je le dis dans le livre, justement, on avait déjà nos petits rituels de course. C'est mon père qui me lassait mes chaussures, qui m'épinglait mon dossard.
Il avait peur que vous oubliez de les lasser, c'est ça ?
Oui, c'est ça. Et du coup, j'en ai de très bons souvenirs encore. C'était un peu... c'était pas du tout la course au chantage, mais c'était un petit peu, ben, fais-toi plaisir, fais ta course, va le plus loin possible, et puis à la fin, t'auras une crêpe, ou voilà, tu pourras te faire plaisir, tu pourras manger une petite crêpe, on pourra partager quelque chose ensemble, et non, c'est vrai qu'au départ, c'était pas du tout la notion de compétition.
C'est intéressant parce que vous parlez tout de suite de plaisir.
Oui.
La notion plaisir, elle a toujours été importante dans votre vie de championne, enfin, de sportive en compétition.
C'est très important pour moi parce que je pense que on peut pas faire de performance si on n'est pas passionné ou si on prend pas plaisir dans ce qu'on fait. Je pense que ça doit pas être une contrainte, la course à pied. Et voilà ce que je dis à chaque fois. Tant que je prends plaisir à faire ce que je fais, ça reste un peu un jeu, ça reste un peu une compétition contre moi-même.
Même à votre niveau, vous, championne de France de marathon, même à ce niveau-là, il y a encore la dimension plaisir qui est fondamentale.
C'est très important. C'est comme à l'entraînement, et puis après, on reproduit ça en compétition, mais tout se fait à l'entraînement, et c'est pareil, la notion de plaisir, elle est ultra importante.
Anaïs Kemener, vous avez toujours été attirée par la course, je dirais, de longue durée, longue distance, même toute petite, vers 7-9 ans?
Alors, peut-être pas vers 7-9 ans, mais c'est sûr que je voulais toujours faire des courses de demi-fond et de fond. Donc, par rapport à ma catégorie d'âge, c'était quand même les courses les plus longues. Donc, ça pouvait être, par exemple, à l'âge de 12-13 ans, ça pouvait être des 1000 mètres, parce qu'on pouvait pas faire plus en compétition. Dès que j'ai pu aller au-delà, donc c'était des 3000 mètres, après des 5000 mètres. Mais j'ai toujours été vers la course à pied, en tout cas les longues distances.
Vous avez toujours envie de faire des parcours de plus en plus longs.
C'est ça.
Et pourquoi? Qu'est-ce que vous recherchez là-dedans?
Bah déjà, parce que j'aimais beaucoup ça. Et je pense aussi que j'étais plus à l'aise sur ces disciplines-là, donc forcément, il y a un peu cette notion aussi de facilité quand on est enfant. On se dit, je vais faire ça parce que je trouve ça plus facile, alors que plein d'autres trouveraient ça le plus difficile encore. Et moi, c'est vraiment là-dedans que je m'épanouissais. Donc
plus que dans la vitesse,
Oui, complètement. Sprint, c'est ça. Là, je trouvais ça très très dur, alors que je pense que j'avais déjà des qualités naturelles pour être à l'aise sur de longues distances.
Mais alors Anaïs Kemener, vous avez pas le physique d'une marathonienne. Enfin moi, ce que j'imaginais, je suis pas du tout un spécialiste de course, mais on s'imagine plutôt des grandes filles minces comme on peut voir chez les Éthiopiennes ou les Kenyanes, qui sont filiformes et très grandes. Vous faites 1m52, je crois.
1m51.
51 même. Je vous grandis.
Oui.
1m51. Vous avez pas été handicapée par votre taille?
Eh ben pas du tout, parce que figurez-vous que dans les têtes de course, généralement, les Éthiopiennes et les Kenyanes sont toutes petites.
Ah bon?
Eh oui. Alors elles ont l'air très grandes à la télé, elles paraissent sûrement très grandes sur les photos, etc. Mais en réalité...
C'est parce qu'elles sont très minces.
Je pense qu'elles font pas plus d'1m60.
Ah oui. Donc l'image des grandes Éthiopiennes d'1m80 filiformes, c'est pas la réalité des marathoniennes.
Pas du tout.
D'accord.
Non, non.
Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être une bonne coureuse de fond et de marathon?
Je dirais la discipline. La discipline et la persévérance. Parce que ça reste de l'entraînement. Ça reste de l'entraînement qui prend du temps et de l'énergie. Et puis, voilà. Après, évidemment, il faut aimer ça. Mais je pense que, c'est des qualités principales.
Visage. Thierry Lyonnais.
Ce que j'ai découvert en vous lisant Anaïs Kemener, c'est que on imagine souvent que la course, notamment le marathon, ou même vous avez fait le 100 km, enfin, toutes ces courses-là, c'est un sport très individuel. Et en fait, vous dites non, il y a une dimension d'équipe. Alors j'aimerais que vous nous expliquiez ça.
Alors à la base, c'est vrai que la course à pied, ça peut être un sport individuel, c'est-à-dire qu'on court contre soi-même, on va chercher ses propres chronos, ses propres records. Mais effectivement, quand on est en club, en tout cas dans mon cas, qui suis dans un club, qui avons créé avec un petit noyau dur de mon ancien club, le club dans lequel je suis aujourd'hui, qui est la Meute Running, on se rend compte que finalement c'est très très collectif. Parce que la performance des uns permet de faire progresser les autres. Donc à l'entraînement, j'ai des garçons qui sont devant moi, j'ai des garçons qui sont derrière moi, ou même des filles. Et en fait, chacun entre nous, on s'entraide à l'entraînement, ce qui nous permet de devenir plus fort en compétition.
Vous entraînez ensemble, donc là on peut comprendre qu'il y a une dimension de stimulation du groupe, mais lorsque vous êtes en compétition, le groupe a encore de l'importance?
Ah oui, bien sûr. Après, c'est une autre dimension, mais c'est vrai que dans un premier temps, on va chercher son propre chrono, mais on est toujours content. Moi, je sais que j'aime bien attendre les copains, ou je sais que les autres même m'attendent quand ils arrivent avant moi. Enfin, on est toujours en groupe, en fait, on est toujours ensemble, en meute, à s'attendre, et ça donne davantage de force.
En meute, alors j'aime bien l'expression, c'est pas pour rien, hein, vous appartenez à un club qui s'appelle la Meute Running.
C'est ça.
Qui a été fondé par votre papa, en fait.
Par Mathieu Leroux, Aurélien Robin et d'autres copains, on va dire, de l'ancien club où j'étais avant.
Donc l'ancien club, c'était le Tremblay Athletic Club.
C'est ça.
Là, vous avez été de l'âge de 15 ans à 28 ans dans ce club. Et alors, cette équipe-là a voulu créer une meute. Pourquoi ? Qu'est-ce que ça apporte de particulier de créer son propre club et d'être en meute ?
Alors en fait, c'était un peu... C'est pas... Comment dire ? On était dans un club où on se sentait plus totalement à l'aise. C'était plus les mêmes valeurs. Et en fait, on avait plusieurs solutions. Soit chacun partait dans un club différent, dans un club voisin. Et du coup, le groupe qu'on avait, le noyau dur de copains qu'on était, éclatait. Et on pouvait certainement plus s'entraîner ensemble parce que le travail, la vie, chacun sa vie de famille, c'était un peu compliqué de se retrouver. Soit on s'est dit, à nous de recréer quelque chose de nouveau, qui fonctionnera ou pas. Mais en tout cas, tant qu'on l'avait pas fait, on pouvait pas savoir. Et à ce moment-là, de rester ensemble, de recréer quelque chose de nouveau et de voir ce que ça allait donner. Et on a bien fait parce que du coup, on a créé la meute au départ à 6. Et aujourd'hui, on est 115.
115. Et alors, est-ce que vous êtes tous du 9-3, comme on dit, le 93? Alors, pour les gens qui sont pas de la région parisienne, hein, c'est la Seine-Saint-Denis, c'est la banlieue. Vous êtes originaire de ce lieu que vous aimez beaucoup. Hein,
oui.
Vous êtes toujours resté attaché au 9-3.
Hein, c'est
vous,
ça.
Vous êtes fier du 9-3. Est-ce que la plupart des membres de la meute font partie du 9-3?
Beaucoup en font partie, mais il y a aussi beaucoup de personnes de Seine-et-Marne, donc du 7-7.
À côté.
C'est ça. Et il y a aussi beaucoup d'autres personnes de l'Île-de-France en règle générale. Donc maintenant, la meute s'est agrandie et a ouvert ses portes, on va dire. Donc il n'y a plus que des gens du 93 ou du 77, il y a vraiment des gens de toute l'Île-de-France et même de France.
Alors expliquez-nous, Anaïs Kemener, ce que vous aimez dans le 9-3, puisque vous êtes de là, vous êtes toujours entraînée ici, dans ce département.
C'est
qu'est-ce
ça.
Que vous aimez dans un département qu'on présente souvent comme étant le lieu de la banlieue un peu difficile, département à problème. Et vous aimez, vous êtes attachée au 9-3.
J'y suis attachée parce que j'y ai grandi. Donc, entre Clichy-sous-Bois, Aubervilliers, Tremblay en France. J'étais dans mon premier club à Villepinte. Donc, pareil, toujours le 93, mon deuxième club à Tremblay. Aujourd'hui, je suis à la Meute, mais avant d'être du 77, la Meute était un club du 93. Et c'est vrai qu'on est très attaché à nos comment dire, c'est un peu comme un ancrage. On a toujours été ici, on est toujours ensemble, et j'ai l'impression que c'est comme une grande famille où justement c'est très riche au niveau des différentes cultures, différentes origines. Chacun est différent, mais tout le monde s'apporte quelque chose. Et du coup, je pense que c'est ce qui nous rend plus forts. Donc pour le club, mais ensuite par rapport à l'endroit. J'ai l'habitude de courir dans mon parc. J'ai l'habitude de courir le long du canal de l'Ourcq. J'ai l'habitude de courir. Pas sur Paris même, mais plutôt en banlieue. Et c'est vrai que c'est des endroits que vraiment j'adore.
Vous vous entraînez souvent dans votre parc. Vous dites mon parc, c'est lequel?
Oui.
Le parc?
Le parc de la Poudrerie. Ouais.
C'est là où vous allez vous entraîner. Vous n'êtes pas à courir autour d'un stade, à tourner en rond, vous courez sur des grandes distances.
C'est ça, c'est ça. Ouais. Notre parc, il est maîtrisé. En plus, on a la chance, en fait, on a mis des petits marquages au sol que mon père a fait. Donc tous les 100 mètres, on a un petit marquage au sol. Et ce qui fait que tous nos entraînements, au lieu de les faire sur piste, donc au lieu de les faire sur une piste de 400 mètres, on les fait sur un tour de 3,7 km.
Et ce côté multiculturel, parce qu'effectivement, dans le 9-3, il y a des habitants qui arrivent de tous les pays du monde. Enfin, je ne sais pas combien il y a de nationalités, plus d'une centaine. Qu'est-ce que ça apporte, je dirais, de particulier, plutôt que uniquement la Bretagne ou la Vendée, où il y a moins de multiculturalité?
Eh ben, comme je disais juste avant, je pense qu'on a vraiment tous des choses à s'apporter. On est tous différents. Et du coup, moi, je trouve ça hyper intéressant aussi de s'intéresser, d'aller vers les gens pour savoir... Par exemple, en ce moment, c'était le Ramadan. Moi, je suis admirative de tous mes amis du club qui font le Ramadan et qui continuent à courir.
Ils s'entraînent.
Et oui.
Pendant la période du Ramadan.
Ils continuent à courir.
Ouais.
Donc après, il y a plein d'autres moments comme ça, mais c'est vrai que moi, je trouve ça hyper enrichissant en tout cas.
Et cette multiculturalité, vous la portez en vous, parce que vous êtes à la fois bretonne, du 9-3, et puis réunionnaise avec du sang indien.
C'est ça, c'est ça. Ouais. Du coup, aussi, oui, par mon métissage, c'est vrai que dans le 93, entre guillemets, comme je dirais maintenant dans toute l'Île-de-France, c'est pas que le 93, mais je me sens à ma place.
Alors Anaïs Kemener, on pourrait bien sûr faire toute cette émission sur votre spécialité de sportive, le marathon. On va en reparler, on va découvrir ce que vous aimez aussi dans le marathon. Mais je voudrais qu'on parle de cette maladie qui a été un coup de tonnerre dans votre vie. À 24 ans, donc toute jeune, on vous décèle un cancer du sein. Comment vous avez accueilli cette annonce ?
Alors c'était un peu compliqué au départ parce que donc en fait le cancer a mis du temps avant d'être diagnostiqué. J'ai vu 3 médecins sur une année. Donc ma gynécologue en premier rendez-vous m'a dit que c'était certainement hormonal et qu'à 24 ans ça passerait tout seul parce que j'avais pas d'antécédent connu.
Vous aviez quoi ?
J'avais une boule. Pendant ma douche, j'ai découvert que j'avais une boule dans le sein. Et du coup, j'ai vu ma gynécologue qui m'a dit que c'était rien pour elle. Enfin, en tout cas, que c'était pas très grave et que ça partirait tout seul. Donc, je lui ai fait confiance. Environ 6 mois après, j'ai vu un autre médecin sur mon lieu de travail quand je travaillais à l'hôpital Bichat. Pareil, elle m'a prescrit un bilan sanguin qui revient parfait. Donc, je me dis, bon, pareil, hein, je ne suis pas médecin. Donc, les bilans ont l'air bons. Je continue ma vie normalement. Je vois un troisième médecin environ 4-5 mois après. Parce que du coup, la boule que j'avais dans le sein continuait à grossir. Mmh. J'ai jamais eu de douleur, je me suis jamais sentie fatiguée ou quoi que ce soit.
À l'entraînement, vous sentiez pas de fatigue ?
Non, je sentais absolument rien. Au contraire, je continuais à battre mes propres records sur les distances de 10 km ou sur les compétitions. Et du coup, c'est vrai que ça a été un coup de massue à l'annonce du diagnostic, parce que quand on a 24 ans et qu'on se sent bien, on pense pas du tout à un cancer.
Comme quoi c'est important quand même d'aller voir plusieurs médecins, d'avoir des avis différents, si je
vous
comprends bien.
Ouais, c'est hyper important, oui.
Et alors, vous dites coup de massue, vous vous souvenez précisément quand le médecin vous l'a annoncé et comment il vous l'a annoncé ?
Alors, c'était
brutalement ou en douceur ?
Non, il a été très gentil, au contraire, je pense que même lui, il était même plus gêné que moi parce que c'était pas du tout un médecin oncologue, c'était dans le cabinet de radiologie en fait où j'étais, comme j'avais pas de médecin traitant parce que je voyais très peu de médecins à part pour un certificat médical.
Et puis en bonne santé.
Voilà, ouais, pour faire du sport. Je lui avais dit, moi j'ai pas de médecin traitant, est-ce que c'est possible que vous me donniez les résultats lorsque je vais revenir ? Et il pensait pas non plus forcément à un cancer, donc il m'avait dit ok, pas de problème. Et en fait, quand il est revenu dans le cabinet, c'est vrai qu'il a mis du temps. Donc je l'ai attendu un long moment et finalement, en fait, il m'a expliqué par la suite qu'il avait eu le temps de voir d'autres médecins pour justement leur demander comment annoncer ça, comment... Je pense que lui n'était pas bien non plus, c'était un peu le cadeau empoisonné que je lui avais fait en lui demandant de m'annoncer ça. Et j'ai pas spécialement eu besoin de dire quoi que ce soit parce que finalement, je l'ai compris tout de suite en le voyant.
Vous dites dans votre livre, tout ce que je voulais, c'était courir, que ça a été un coup de massue, mais il y a eu une forme de déni.
Oui.
Chez vous. Pouvez-vous nous expliquer ce qui s'est passé ?
Oui, parce qu'en fait, je me sentais bien. Je me sentais en pleine forme, je continuais à battre mes records, j'étais jeune, j'étais pas fatiguée, et du coup j'avais 24 ans. Et c'est vrai qu'en fait, quand on m'annonce que j'ai un cancer du sein, en plus qui est quand même agressif, mais ça je l'apprends par la suite, en plus je travaillais à l'hôpital en tant qu'aide-soignante, moi je vois les patients qui sont atteints de cancer.
Vous étiez dans le milieu hospitalier en permanence par votre travail.
Et je pense que j'ai été dans le déni un bon moment parce qu'en fait j'arrivais pas du tout à m'identifier et je me disais mais les patients que je vois, je peux pas avoir un cancer, c'est pas possible.
Et vous étiez prête à repousser le traitement pour aller courir, je crois pour le championnat de France à Rennes, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Mais je pense que je me rendais pas encore compte de la gravité de la maladie que j'avais. Et c'est vrai que j'ai demandé tout de suite à mon médecin, est-ce que c'est possible d'attendre 3 mois, mon championnat, pour commencer les traitements? Je pense que je me rendais pas encore compte vraiment de ce qui allait m'attendre. Et c'est vrai que lui m'a dit, non, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible parce que c'était un cancer qui était très agressif et qui allait vite.
Cancer génétique, plutôt.
Oui, oui. On l'apprend quelques mois après. Du coup, c'est un cancer génétique.
Parce que c'est assez rare d'avoir un cancer du sein à 24 ans.
C'est ça. Ouais, c'est quand même rare.
Alors vous dites que vous aviez ce désir, Anaïs Kemener, que rien ne change dans votre quotidien. Pourtant, un cancer, ça bouleverse une vie, ne serait-ce que par les visites médicales, les traitements. Comment, à partir de ce moment-là, vous, à la fois l'aide-soignante de jour, hein, à l'époque, vous étiez de nuit, vous étiez aide-soignante de jour, plus avec tous les entraînements pour préparer des championnats de France, puis viser toujours de devenir championne de France de marathon, comment vous avez organisé votre vie ?
Pendant les traitements, déjà, c'était quand même plus facile, entre guillemets, parce que j'étais en aplasie, donc j'avais plus de défense immunitaire, ce qui fait que je pouvais plus travailler à l'hôpital. Donc j'étais en arrêt de travail. Donc en fait, je n'avais aucune activité à part la course à pied. C'est pour ça que je dis souvent que la course à pied, quelque part, m'a sauvée, parce que sans la course à pied, je serais chez moi, dans mon canapé, toute seule, à me couper du monde, alors que là, finalement, j'avais toujours un lien social, j'étais toujours avec du monde, dehors, à prendre l'air, à voir des amis.
Donc ça veut dire que même pendant les traitements, vous sortiez pour aller vous entraîner.
Ah oui, oui. Ah mais c'était important, c'était vital, bien sûr. Mmh. C'était vraiment vital. C'était ça ou les rendez-vous à l'hôpital tout le temps. Donc du coup, j'ai fait les deux.
Alors attendez, quand on a un traitement de chimiothérapie, généralement ça rend bien malade, ça barbouille beaucoup comme on dit. Comment vous arriviez, vous, à suivre ce traitement de chimio et quelques heures après aller courir ?
Je pense que j'ai vraiment adapté mes entraînements à mes traitements. Donc en fait, les premiers jours de chimiothérapie, je savais que c'était plus compliqué. Donc jour 1, jour 2, jour 3, c'était quand même assez difficile. Mais après, ça allait de mieux en mieux. Plus les produits... Bon, disons que mes premiers traitements, c'était lundi, mardi. Et jeudi, vendredi, samedi, ça commençait vraiment à aller mieux. Donc en fait, je me faisais juste des entraînements un petit peu plus tranquilles. Donc juste des footings en début de semaine. Et j'intensifiais un petit peu mes entraînements en fin de semaine, quand je me sentais mieux. Mmh. Donc j'ai adapté.
Vous avez dit que vous avez appréhendé les cures comme un programme d'entraînement.
C'est ça.
C'est ça. Le fait d'être sportif de haut niveau vous a permis de... Allez, d'aborder ces traitements d'une manière quasiment sportive.
Quasiment, ouais. C'est exactement ça. En fait, je me rappelle que vers les chimios 7, 8, vraiment les dernières chimios, c'était quand même un peu plus compliqué parce que forcément, j'avais de moins en moins de force physique. C'était plus compliqué d'aller en séance de chimiothérapie. Puis j'en avais marre aussi. Parce qu'à un moment donné, au début, on se dit, bon, ça va, ça passe. Mais quand on arrive qu'à la moitié, on se dit, là, en fait, j'ai juste envie d'avoir une vie normale et de pouvoir profiter de la vie, entre guillemets, comme tout le monde. Et c'est vrai que je l'ai un peu façonné comme un programme d'entraînement parce que quand c'était plus difficile, donc chimio 7 et 8, par exemple, je me disais que c'était un peu comme un marathon. C'était le mur. J'étais au kilomètre 35, 36, 37.
Ça, c'est le moment le plus dur du marathon.
C'est ça. Voilà, c'était mon 35. Mur du marathon et qu'après, tout irait mieux.
Et la présence des amis, la présence de votre père. Votre père a été incroyable auprès de vous. En tous les cas, tel qu'on le lit dans le livre, il était là. Il vous a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Qu'est-ce que ça apporte, cette présence, quand on est dans cette épreuve du cancer, l'épreuve de la maladie ?
Je pense que ça change tout, parce que déjà, ce que je dis dans le livre, c'est que mon père et moi, on n'a que 19 ans d'écart, donc on n'a pas beaucoup d'écart d'âge. Et effectivement, ça nous a rendus très complices de par l'enfance que j'ai eue avec lui, c'est lui qui m'a élevée, c'est lui qui m'a appris un petit peu tout le cheminement dans le sport. Et c'est vrai que par la maladie, il a toujours été là, en fait. Mais toutes les séances de chimio, lundi, mardi, toutes les séances de radiothérapie, tous les jours... toutes les opérations, quand je partais au bloc opératoire, je revenais, il était dans ma chambre. Donc il a toujours été présent et je pense que ça a fait une grande différence, même pour qui je suis devenue aujourd'hui, c'est-à-dire que il a réussi à lever des barrières que peut-être personne d'autre n'aurait pu faire. C'est-à-dire que quand j'avais chaud et que je me sentais pas bien, je lui disais, j'ai chaud, il me disait, enlève ton bonnet. Mais j'osais pas enlever mon bonnet parce que j'avais pas de cheveux. Et puis du coup, il me faisait un peu il essayait de me dire, mais c'est pas grave, en fait. T'as rien demandé à personne. C'est pas grave si t'as pas de cheveux. Si t'es pas bien avec ton bonnet, enlève-le. Et c'est vrai qu'en fait, il me remettait les choses dans le bon ordre. Et je lui disais, oui, c'est toi qui as raison. C'est vrai. Personne n'a rien demandé. J'ai pas demandé à ne pas avoir de cheveux. Et aujourd'hui, je suis pas bien.
Justement, vous parlez de cheveux. Il y a une scène très émouvante dans le livre. Au moment où votre père vous coupe les cheveux. Parce que là, vos cheveux tombent. Hein, pour ceux qui ne le savent pas, durant les chimiothérapies, on perd ses cheveux. Et à un moment, vous avez décidé de les couper, c'est votre père qui vous les a coupés.
C'est ça. En fait,
j'avais les cheveux très longs. C'était très émouvant, ce moment-là.
Ouais, bah, c'est vrai. Bah, je pense encore plus pour lui que pour moi.
Il pleurait en vous coupant les cheveux.
Oui, bah, je pense qu'il était pas, il était pas bien du tout. Hein. Mmh. Il y a plein de moments comme ça où lui n'a pas forcément montré les choses, mais je pense que pour lui, ça a été plus compliqué que pour moi.
Et pour vous, comment on vit ce moment quand on est une femme? On sait l'importance de la chevelure pour la féminité. Vous, vous êtes très féminine, hein, vous êtes devant moi, vous avez les cheveux longs. Sur la photo qui est en couverture du livre, on vous voit avec un beau turban dans les cheveux. Vous êtes très féminine. Et là, on perd ses cheveux. Qu'est-ce que ça représente pour une femme?
Finalement, ça a été. Je pense que c'était juste... j'étais préparée à ça parce que le fait de travailler à l'hôpital aussi, ça permet de relativiser. Et c'est pareil, je savais que... Bah voilà, c'est une chimiothérapie et dans une chimiothérapie, on perd ses cheveux. Donc j'étais préparée à ça.
C'est les autres, ça. C'est les autres, c'est pas soi. Là, c'était vous.
Ah, ça allait quand même. J'ai essayé de le prendre avec du recul en me disant, ben, ok, c'est pas grave, ça va repousser. Bon, mon père, lui, il a la calvitie, ça repousse pas. Mais pour moi, je me disais, c'est pas grave, ça va repousser. Et du coup, ouais, c'est vrai que l'entourage aussi. Hein, l'entourage, ça aide beaucoup parce que c'est vrai que quand il a dû me raser la tête. Finalement, tous les gens dans mon entourage m'ont regardé un peu différemment et les proches me disaient « Mais en fait, même les cheveux courts, tu es très belle, t'as un beau visage. » Et c'est vrai que c'est quand même rassurant.
C'est important de le dire, ça. Hein.
Bien sûr.
Dire aux autres, à des femmes qui passent cette épreuve, même à des hommes, ouais, « Tu es encore beau, hein,
mais
même
oui.
sans tes cheveux. »
Mais oui, oui bien ouais. sûr. Il y a plein de gens d'ailleurs qui l'ont dit après. Et moi, je le répète aussi à plein d'autres personnes qui vivent la même période. Et c'est important de le dire parce que ça paraît... Une phrase simple, nous, enfin, ça n'a pas changé grand-chose dans une journée, mais ça peut changer réellement tout un parcours de vie.
Les amis du club aussi ont été importants. Hein. C'était important pour vous à ce moment-là, au moment où vous étiez le plus malade, que les amis du club vous soutiennent.
Bah oui, bah c'est devenu ma famille. Hein. Et puis, je suis encore très très proche d'eux. Donc, toutes les personnes que j'avais autour de moi pendant ma maladie, je les ai encore aujourd'hui. Et j'en suis très très fière et je leur dois tout.
Et alors, ce que j'ai découvert aussi, c'est l'aide des réseaux sociaux. Mmh. Parce qu'on peut se dire, quand on a une maladie, quand on a une certaine célébrité, vous commenciez à avoir une certaine célébrité dans le milieu du sport, vous étiez sur les réseaux sociaux, et vous dites que les réseaux sociaux vous ont aidé pendant oui. cette maladie. Vous pouvez nous expliquer pourquoi?
En fait, je me suis servi des réseaux sociaux comme d'un journal intime. Et du coup, j'expliquais toutes mes phases de traitement. Donc, je mettais des photos et j'expliquais aujourd'hui chimio 1, ça s'est passé comme ça, je me sens comme ça. Le lendemain, chimio 2, ça s'est passé comme ça, je me sens comme ça. Et petit à petit, au fur et à mesure des traitements, je pense que déjà, pour les gens qui sont proches, mais pas tout le temps avec moi, ça permettait d'avoir des nouvelles de temps en temps. Donc, toutes les 3 semaines, il y avait une petite photo avec des chimios. Alors, des fois, c'est pas facile parce que forcément, plus ça va dans les chimios, plus... Ben, on perd du poids, on perd ses cheveux, moi je perdais mes cils, mes sourcils, et au niveau du visage, ça commençait à être un peu compliqué, j'étais un peu plus creusée au niveau du visage, j'étais toute pâle, enfin vraiment, j'avais l'impression de... Mon corps était comme si il fallait que je sois soignée, mais avec comme si c'était du poison finalement, donc ça tuait les bonnes cellules, mais ça tuait les mauvaises cellules, mais ça tuait aussi les bonnes cellules, et du coup c'était un peu compliqué sur le long terme, mais c'est vrai que les réseaux sociaux m'ont permis de pouvoir échanger avec d'autres personnes qui pouvaient vivre la même chose, et de rencontrer d'ailleurs d'autres personnes aussi, parce que j'ai rencontré des associations, j'ai rencontré l'association dont je suis marraine aujourd'hui, Cassiopeia, et je pense que ça change beaucoup de choses. Ça m'a permis aussi d'avoir des messages très positifs, d'avoir beaucoup de commentaires bienveillants, et finalement de mieux vivre la maladie et le physique que j'avais à ce moment-là.
Vous voyez, c'est courageux, parce que sur les réseaux sociaux, on cherche toujours à se mettre en valeur. Vous voyez bien le jeu des influenceurs ou des oui. influenceuses, les photos transformées. Et là, vous vous montrez tel que vous êtes. Plus de cheveux, plus de cils, plus de sourcils, amaigri, fatigué. C'est pas évident de faire ça. Et pourquoi le faire?
Ben, je le faisais surtout parce que dans mon parcours de jeune malade, j'avais aussi recherché justement sur Internet et sur les réseaux sociaux des personnes à qui je pourrais m'identifier. Donc je cherchais des gens qui seraient jeunes, qui avaient peut-être moins de 30 ans et qui se battraient contre un cancer. Sauf que et qui voudraient faire du sport, parce que pour moi c'était essentiel. Et c'est vrai qu'en cherchant sur Internet, bah, je trouvais pas grand monde. Et je me disais, mais c'est pas possible, je peux pas être toute seule à vouloir faire du sport et à avoir un cancer en même temps. Et je pense qu'il y en avait d'autres. Simplement, les gens n'en parlaient pas spécialement autour d'eux. Et c'est vrai que de le diffuser comme ça, de pouvoir le partager sur les réseaux, ben en fait, j'ai rencontré beaucoup d'autres personnes qui étaient dans le même cas que moi.
Et ça vous a aidé?
Bien
vous
sûr.
Vous avez eu beaucoup de retours de la part de gens qui vous écrivaient?
Ça m'a beaucoup aidé, bien sûr, parce que bah, c'est hyper positif, mais ça a été très dur aussi par moments parce que bah, je rencontrais des personnes qui vivaient la même chose que moi et certaines aujourd'hui ne s'en ont pas sorties.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. Encore fatigué, la cloche du midi. Le corps assommé, toujours épuisé, les masques sont mis. Triste face à face, poursuite du bonheur. Reflet dans la glace, les années qui passent flétrissent les fleurs.
Ok.
Les écrans, le bruit, l'argent, les crédits, les phrases assassinent, les cons, les cancers. Le temps qui s'écoule, le vide qui se fait, le silence épais. La vie c'est la guerre tournée dans le tambour. Amour placebo. Faire semblant pour tout, c'est violent partout, la vie c'est Rambo.
T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère. T'as le souffle court, respire, quand rien n'est facile, respire, même si tu te perds, respire, et si tout empire, espère.
Anaïs Kemener, vous êtes non seulement championne de marathon, vous avez été deux fois championne de France de marathon, vous avez eu quand même cet événement terrible dans votre vie d'avoir un cancer à 24 ans, mais vous êtes aussi aide-soignante. Et ça, j'aimerais qu'on parle de ce métier. On a honoré les infirmières et les aides-soignantes pendant le Covid. C'était bien la première fois hein, qu'on vous applaudissait, qu'on vous encourageait, qu'on mesurait l'importance de votre métier. J'aimerais que vous m'expliquiez comment votre maladie d'être passée du côté, on va dire, des malades a changé votre regard sur votre métier d'aide-soignante?
Bah forcément, ça change. Forcément. Je pense que j'étais déjà sensible à la cause du cancer, mais moins qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que quand on n'est pas touché personnellement, de près ou de loin, par le cancer, on sait que c'est une maladie grave, on sait que ça arrive à tout le monde. Malheureusement, ça peut arriver à tout le monde. Mais je pense qu'on ne se rend pas autant compte de ce que ça peut causer comme problème et au quotidien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, ça a un petit peu changé ma vision de soignante. C'est vrai que quand je vais à l'hôpital aujourd'hui, bah, j'ai une approche un peu différente avec les patients que j'ai. Et quand je...
Sur quoi? Comme quoi?
Bah, par exemple, quand je vais dans le service de gynécologie, c'est un service où, justement, je peux rencontrer des femmes ou des hommes qui ont des cancers du sein, parce que ça arrive aussi aux hommes. C'est un peu plus rare, mais ça arrive. Et c'est vrai que l'échange est différent. Et c'est déjà arrivé que j'ai des retours de patients ou de familles de patients qui me disaient, effectivement... Bah, les mots sont justes. Et du coup, j'expliquais un petit peu mon parcours et je leur disais aussi, je pense que ça pouvait leur donner un peu d'espoir en leur disant, ben, là où vous êtes aujourd'hui, moi aussi je l'ai été et aujourd'hui je suis là.
Donc, et vous avez été confrontée vous-même, Anaïs Kemener, à des infirmières bienveillantes et à des infirmières moins bienveillantes, hein, vous le dites.
Oui, alors je dirais pas qu'elles étaient forcément moins bienveillantes, mais en tout cas, elles étaient peut-être un peu plus dures, oui, c'est ça, c'est ça.
Vous pouvez nous dire, nous raconter un peu
ouais.
Celles qui vous ont bien aidé.
Oui, bien
en
sûr.
Quoi bah, celles qui ont été dures, pourquoi?
Service de chimiothérapie, par exemple, rien à dire. Hein. Les infirmières, elles étaient vraiment géniales avec moi. Elles m'ont toujours accueillie. Elles ont été toujours très, très gentilles et généreuses. Elles m'ont mise dans une petite pièce un peu à part pour que je puisse être avec mon père, qu'on soit pas toujours avec les patients qui faisaient leur chimiothérapie. C'est vrai que l'ambiance, c'était quand même pas... C'était pas la fête. C'est normal. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, quand je me retrouvais un petit peu seule avec mon père, on pouvait se regarder un film sur l'ordinateur. Mmh. Et c'était quand même... disons, un peu plus sympa. C'est pas un moment sympa, mais ça passait plus facilement. Et elles ont toujours été très très gentilles, elles prenaient toujours des nouvelles. Même du coup, ça donnait aussi envie, quand j'étais pas en traitement et que j'avais juste des rendez-vous, de venir leur faire un petit coucou pour leur dire bah tout va bien, regardez comment je suis aujourd'hui. Alors que dans le service de radiothérapie, c'était plus compliqué parce que en fait, il y avait besoin de faire des points. Et c'est millimétré, hein, la radiothérapie. Donc en fait, on m'envoie des rayons sur une zone bien délimitée pour brûler les dernières cellules cancéreuses. Et comme je faisais beaucoup de sport, du coup, c'était l'été, je prenais beaucoup de douches et elle me faisait des points en stylo. Bah, tous les jours, quand je revenais, les points étaient effacés.
Ah oui, donc ça, c'est les énervés parce que normalement, les points devaient rester visibles.
Voilà, et comme c'était millimétré, en fait, c'est un appareil qu'elles devaient recommencer tous les jours. Et du coup, elles étaient vraiment pas contentes et elles me disaient chaque jour, mais on fait pas ça, on fait pas de sport quand on a un cancer. Et moi, je leur disais, mais ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Et j'avais tellement cet esprit, c'était pas de la contradiction, c'était vraiment, je pense, plutôt de la détermination de vouloir faire du sport, que je pense que plus on m'interdisait de faire du sport, plus je voulais en faire.
Alors, ce qu'il y a d'incroyable dans votre vie, Anaïs Kemener, c'est que en 2015, vous avez ce cancer.
Oui.
Traitement, chimiothérapie, puis costaud. Enfin, comme traitement, c'était fort. Vous aviez un cancer agressif, oui. Un cancer du sein agressif. Et 2016, vous devenez championne de France de marathon. Alors ça, attendez, comment c'est possible? Expliquez-nous comment une jeune femme qui a eu des traitements aussi forts, violents, a dû ralentir complètement son entraînement, vous étiez diminuée quand même physiquement, vous avez pu réussir un an après à devenir championne de France de marathon.
Alors, c'est tout un contexte un peu particulier, mais c'est vrai que pour remettre les choses dans leur contexte, donc pendant tous mes traitements, j'ai continué à courir. Donc déjà, c'est ce qui m'a permis de jamais recommencer à zéro.
Même moins vite, mais vous couriez.
Voilà, même moins vite, je faisais quand même des compétitions.
Tous les jours, vous alliez courir.
Tous les jours, alors c'était courir, marcher, faire du vélo, sortir. J'avais aussi un vélo d'appartement. Quand je pouvais pas sortir ou quand je me sentais peut-être un peu plus fatiguée, je faisais simplement tourner les jambes. Et c'était quand même une activité, même si c'était pas forcément du sport ou une activité sportive. J'avais adapté ce dont j'étais capable de faire, en fait. Et à la fin de mes traitements de radiothérapie, donc j'avais plus aucune chimio. Pendant même la radiothérapie, j'avais plus du tout de chimio. Et il s'est passé environ 6 mois où je n'avais plus aucun traitement. Donc, plus de chimio, plus de radio, plus rien. Et je pouvais reprendre l'entraînement normalement. Et j'étais encore en arrêt de travail, donc j'avais mon temps. Et ben, j'en ai profité pour courir.
Et vous vous sentiez mieux?
Et je me sentais chaque semaine de mieux en mieux. Parce que les traitements étaient plus là. Parce que, justement, j'étais plus diminuée par les traitements. J'étais plus obligée de faire multiples allers-retours à l'hôpital. Et c'est vrai qu'en fait, petit à petit, en passant par ce cheminement-là, ben, j'ai réussi à retrouver mon niveau d'avant.
Et les médecins vous ont encouragé à faire du sport, mais du sport de haut niveau et du sport pour préparer le marathon, où ils vous ont dit, attendez là, mais vous en faites trop.
Ben, en fait, ils m'ont jamais dit que je faisais trop de sport parce que je pense qu'ils n'étaient pas forcément au courant de ce que je faisais par jour ou par semaine.
Vous leur disiez pas?
Bah, je leur disais que je courais, quoi, mais je leur disais pas forcément aujourd'hui j'ai fait 20 km, aujourd'hui j'ai fait 15 km. Je leur disais pas spécialement. Mais c'est vrai que peut-être je leur disais quand j'étais en traitement parce que c'était quand même un peu plus léger. Mais c'est vrai que quand j'ai pu reprendre une vie normale, j'avais envie presque de reprendre une revanche et de me dire, ok, bah, le temps que j'ai perdu, je vais le rattraper maintenant et je vais pouvoir faire ce que je faisais avant.
Et quand, après avoir gagné ce marathon, devenu championne de France, vous êtes allé voir le docteur Desnarno, on peut le citer, hein, c'est lui qui vous a accompagné. Comment il a réagi quand vous lui avez dit, bah voilà, la médaille, je suis championne de France de marathon?
Eh ben, il était tellement content. Ouais, il était tellement content. Je suis retournée le voir en radiothérapie, du coup, parce que j'ai repris un rendez-vous classique, comme une patiente pourrait le faire avec son médecin, la veille pour le lendemain. Et c'est vrai que c'était juste quelques jours ou peut-être le surlendemain de mon marathon. Et c'est vrai que je suis, en arrivant dans le cabinet, j'ai ouvert mon manteau et je lui ai dit, bah voilà, docteur, on a gagné. J'ai gagné le championnat de France de marathon.
On a gagné.
On a gagné, bien sûr.
C'est pas j'ai gagné, c'est on a gagné.
Bien sûr, on a gagné.
Il y avait qui?
Il y avait mon père, le docteur Desnarno et moi-même. Et bien sûr, c'est un super trio. Pendant tout le temps des traitements, c'était un super trio. Je dis souvent que je m'en serais pas sortie sans mon père, mais je m'en serais pas sortie non plus sans le docteur Desnarno.
Visage, l'expression de l'être.
Anaïs Kemener, vous avez eu ce cancer décelé à 24 ans. Et puis, malheureusement, après, vous avez eu encore des ennuis de santé. Et notamment, après, vous avez eu une ablation du sein.
Oui.
Puis l'ablation du deuxième sein.
C'est ça.
Et après, tout un tas de chirurgie pour reconstruire votre poitrine et des rejets. Comment vous avez vécu ce moment-là? D'abord, l'ablation d'un sein, on parlait tout à l'heure, perdre ses cheveux pour une femme, c'est perdre une partie de sa féminité. L'ablation d'un sein pour une femme, c'est très dur aussi. C'est une part de sa féminité. Comment vous avez vécu ça?
Alors, je sais pas si c'est un avantage ou un inconvénient, ou je pourrais pas vous dire, ou c'est vraiment le fait de travailler à l'hôpital, mais c'est vrai que comme j'avais 24 ans et que j'étais tout juste une jeune femme, j'avais pas encore pleinement conscience de cet atout, entre guillemets, de féminité. Je me disais pas, voilà, j'ai une poitrine, donc je suis une femme. Je me disais, bah, en fait, je suis une jeune adulte et je voulais juste faire du sport. Et c'est vrai que quand on m'a enlevé le premier sein, il y a aussi le côté soignant qui me permettait de me dire, bah, en fait, on m'enlève la partie qui est malade. Donc, quelque part, ça me rassurait. J'avais besoin de passer à autre chose et qu'on m'enlève cette partie malade pour que moi-même, je puisse me reconstruire.
Mais alors, vous avez une forme d'humour, en tous les cas, dans le livre, quand vous en parlez, vous dites « bon, ça va m'alléger ».
C'est ça, oui, c'est ça.
D'accord. Et après, vous dites « ça me déséquilibre, j'ai plus qu'un sein ». Et là aussi, on ne peut pas imaginer, pour une coureuse de marathon, avoir un sein en moins, ça déséquilibre la course, quelque part.
Ben oui, parce qu'en fait, on est plus symétrique et on sait que quand on a, par exemple, une jambe qui est plus musclée que l'autre, ben quelque part, ça va entraîner un déséquilibre. Et comme après une opération, par exemple, du genou, on a la jambe qui est peut-être un petit peu moins forte et ça peut entraîner des blessures. Et du coup, pour l'ablation d'un sein, c'est pareil. Ça va créer un déséquilibre sur le corps. Et c'est vrai que c'est un peu des questions que je me posais où je me disais, mais là, ok, tout de suite, ça va, mais est-ce que dans 4 ans, 5 ans, 6 ans, ça ira? Et bon, j'ai eu les résultats du test génétique quelques mois après, donc on a découvert que c'était un cancer génétique. Du coup, il a fallu faire enlever le second sein. On a fait une reconstruction immédiate par la suite, mais c'est vrai que là, ça a été, pour le coup, le marathon des opérations.
C'était un échec. Vous avez eu combien d'opérations de
reconstruction ? 5 opérations en 4 ans. Et du coup, la dernière s'est terminée en 2019, où j'ai décidé de faire une reconstruction à plat. Ça s'appelle comme ça. C'est l'ablation, en fait, des prothèses et d'arrêter toutes les opérations. J'ai décidé de ne plus du tout avoir de sein.
Comment on vit ça ? Vraiment, je me permets de vous poser cette question pour qu'on essaye de comprendre comment une femme vit cette réalité-là, de ne plus avoir de sein. Pour vous, c'est quelque chose que vous accueillez, que vous acceptez pleinement. Vous dites, ma féminité, c'est aussi ça. Ou vous dites, il me manquera toujours quelque chose dans ma vie de femme.
Non, je pense que c'est quelque chose que j'ai facilement accueilli, mais justement, il m'aura fallu quand même des années, parce que les 4 années où je me suis fait opérer, c'était quand même des échecs en termes de chirurgie, où on a essayé, où je me disais, ok, peut-être que je vais pouvoir avoir le corps que j'avais avant, comme si presque de rien n'était. Et comme j'ai vu au fur et à mesure des mois que chaque fois ça n'allait pas, que chaque fois c'était douloureux, que chaque fois je faisais des infections ou des rejets, finalement, moi-même, j'en suis venue au point de me dire, je préfère tout retirer, je vivrai mieux sans mes seins, ou sans mes prothèses, ou sans ma poitrine. Mmh. Et aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. Parce que c'était une réelle souffrance, finalement. Donc, c'était pas mon corps, c'était quelque chose d'étranger, c'était quelque chose que, je pense, même en tant que jeune adulte, j'avais du mal devant mon miroir. Je me disais, mais j'ai presque l'impression d'avoir un corps normal, entre guillemets, mais c'était pas moi.
Et vous le savez, vous devez le rencontrer dans votre vie d'aide-soignante. Il y a des femmes pour qui c'est un drame.
Oui, bien sûr.
Elles le vivent, mais comme un drame terrible. Elles ne se sentent plus femmes parce qu'elles ont perdu un sein,
oui.
Sans parler des deux. Vous pouvez parler avec elles aujourd'hui, les aider un peu ? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie de faire, témoigner pour accompagner et aider ces femmes ?
Bah bien sûr, bien sûr. Bah d'ailleurs, c'est aussi pour ça que j'ai une page Facebook qui s'appelle Le sport comme thérapie, où je reçois beaucoup de messages d'hommes et de femmes qui ont vécu le cancer de près ou de loin dans leur vie personnelle. J'en parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. C'est aussi pour ça que je suis dans une association. Donc c'est ces femmes-là qui m'ont aidée au départ, et maintenant c'est d'autres femmes qu'on va pouvoir accueillir que peut-être je vais pouvoir aider à mon tour. Et c'est vrai
qu'il faut pas rester seul. Hein. On le dit, on insiste sur ça. Il faut pas rester seul quand on est face à la maladie. Et là, on va reciter l'association Cassiopea.
Oui. Hein.
PEEA à la fin, et qui aide vraiment les personnes malades à surmonter leur maladie par des activités physiques.
C'est ça, c'est exactement ça. Bah, c'est comme ça que je les ai rencontrés. On a fait une première marche dans Paris, et pour le coup, j'ai vraiment pu m'identifier à elles parce qu'elles font du sport, et moi j'avais besoin de maintenir justement ça, de pouvoir faire du sport au-delà d'une activité physique et de rencontrer du monde. J'avais besoin d'objectifs. Et elles m'ont permis de pouvoir maintenir ces objectifs et les réaliser.
Anaïs, qui m'énerve, je vais être franc, vous m'avez vraiment impressionné, quoi. La lecture de ce livre, et puis je suis admiratif de votre parcours. Je vous le dis franchement,
ça
fait des années que je rencontre beaucoup de monde dans cette émission, mais j'ai été admiratif par votre courage, votre détermination. Et je trouve fabuleux que championne de marathon, comme vous l'êtes, hein, 2 fois championne de France quand même, en 2016 et en 2022, vous êtes aussi aide-soignante et vous travaillez de nuit. J'ai découvert ça, non seulement vous faites un métier qui est dur physiquement, qui est beau, qui est généreux, mais qui est dur physiquement, et vous êtes sportif de haut niveau, vous entraînez plusieurs heures par jour et vous êtes aide-soignante de nuit de 21h à 7h du matin. Comment vous faites pour tenir ?
Ben, je pense que je suis passionnée par mon sport, mais je suis aussi passionnée par mon travail. Et du coup, j'ai pas l'impression de faire quelque chose d'exceptionnel parce que je vais simplement au travail comme je pourrais aller à l'entraînement. Et quand j'arrive au travail, on parle de tout sauf du sport. Et du coup, je retrouve une vie normale avec mes collègues et tout se passe très bien.
Ah, c'est intéressant ça. Au travail, vous parlez de tout sauf du sport.
Maintenant, mes collègues me demandent quand même quelles sont mes prochaines courses. Ma cadre me demande aussi beaucoup. Mais c'est vrai que jusqu'à il y a encore peut-être un an et demi, deux ans, on me demandait si je faisais du sport. Je disais, un petit peu.
Oui, je cours.
Oui, voilà.
C'est ça. Et on passe à autre chose.
Voilà.
Et dans la meute, dans le club de sport, vous parlez de votre travail ou pas ?
Oui, on en parle beaucoup parce que justement, il y a tous les métiers possibles et imaginables. On a des cadres, on a des aides-soignants, on a des policiers, des pompiers, des infirmières. Enfin, au-delà même du travail à l'hôpital, il y a vraiment tous les métiers possibles. Et du coup, chacun, vu qu'on s'entend très bien, on se raconte un peu nos journées, comment s'est passé le travail. Franchement, oui, c'est vrai qu'on parle de tout, pas forcément que de la course à pied.
Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier d'aide-soignante ? Qu'est-ce que vous aimez vraiment le plus ?
C'est pouvoir aider. C'est vraiment ce contact avec les gens, c'est particulier. Quand on est aux urgences, il faut agir sur l'urgence, c'est très rapide. Il faut essayer de déceler tout de suite ce qui ne va pas. Enfin, dans d'autres services, par exemple, comme la maternité, que je fais beaucoup en ce moment, en fait, on accueille et on accompagne des jeunes mamans. Du coup, c'est pareil, c'est pas évident. Moi, je n'ai pas d'enfant, mais c'est vrai que moi, j'ai appris aussi en arrivant là-bas en disant... comment on peut accompagner une jeune maman qui a beaucoup de douleurs, par exemple, qui peut être stressée de ne pas savoir comment faire avec son enfant. Et moi, j'ai appris en même temps qu'elle par le travail, justement. Je trouve que c'est hyper enrichissant de passer de service en service. Ça peut être du bloc opératoire, de la médecine interne, de la maternité, des urgences. Moi, j'adore
voir la lumière qui est dans vos yeux quand vous parlez comme ça. Parce qu'on entend sans arrêt parler de l'hôpital comme étant le lieu où c'est la crise. C'est l'épuisement des infirmières, des aides-soignants. Tout va mal. Si on écoutait bien, tout va mal dans les hôpitaux français. Et vous, vous me parlez avec la lumière dans vos yeux de votre métier d'aide-soignante. Expliquez-moi. Où est-ce qu'il y a un problème là ?
Je pense que ça ne va pas très bien en règle générale dans les hôpitaux, mais je pense que ça n'ira pas mieux si on fait que se plaindre et que dire que tout va mal tout le temps. Donc on le sait qu'il manque du personnel, il manque du matériel, mais je pense que nous-mêmes, la première chose qu'on puisse faire déjà pour essayer que tout aille au mieux, c'est d'être quand même positif et d'aider les gens avec les moyens qu'on a.
Attendez, c'est la sportive parle à travers vous, là, la sportive qui a l'habitude de l'effort.
Je sais pas, pense que tout est lié, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois les choses.
Parce que quand vous faites un marathon, vous passez forcément par la souffrance,
oui.
Par la difficulté.
Oui, bien sûr.
Et vous pensez pas que ça a forgé votre caractère et que dans
aussi,
votre vie professionnelle, ce que vous venez de me dire, moi, j'ai l'impression d'être face à une championne qui est dans un passage difficile et qui, allez, on va dépasser quoi, on va dépasser la souffrance.
Si, bien sûr, c'est possible. Je pense que maintenant c'est ancré. Hein.
J'ai plusieurs questions qui me viennent en même temps. C'est à la fois est-ce qu'on peut améliorer le système hospitalier et puis est-ce que après le Covid. Où on a applaudi les infirmières et les aides-soignantes, quelque chose a changé.
C'est vrai que c'est un peu compliqué dans les services depuis la crise sanitaire. On sent quand même une difficulté et une grande charge quand même par rapport mental, je veux dire aussi, pas que physique, mais aussi mental, surtout le personnel soignant. Après, s'il y avait des choses à modifier, je pense que dans tous les services, mais ça dépend vraiment de tel ou tel service, c'est pas les mêmes besoins dans tous les services. Donc là, je pourrais pas vous dire exactement. Et puis c'est pas forcément à moi de le faire, mais je pense que bien sûr il y a toujours des choses à améliorer dans tous les services.
Et alors pour revenir au fait que vous soyez sportif de haut niveau, il y a un aménagement particulier pour l'aide-soignante que vous êtes et la grande sportive que vous êtes ?
Depuis peu, ouais. Depuis janvier 2024, j'ai un aménagement de temps sportif qui a été accepté par mon directeur de l'hôpital, Jean Verdier. Et du coup maintenant je travaille à mi-temps.
Les ministères aident aussi pour ça,
oui.
Le ministère du sport, le ministère du travail, il y a des accords pour aider les sportifs de haut niveau.
Oui, c'est ça. Je suis passée sur liste ministérielle donc pour les athlètes de haut niveau, donc c'est un statut, c'est valorisant parce que ça me permet d'être soutenue par le ministère des sports et de pouvoir avoir accès à cet aménagement de temps en fait maintenant. Et je n'y avais pas accès avant. Et je pense que sans ça, ça aurait peut-être été un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que maintenant, c'est une belle reconnaissance pour l'athlète aussi que je suis, en plus de l'aide-soignante. Et j'ai droit à ce mi-temps que je prends. D'ailleurs, je remercie encore mon directeur de l'hôpital parce que vraiment, sans lui et ma cadre, ça n'aurait pas pu se faire. Et il n'était pas obligé d'accepter. Parce que forcément, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'hôpital, il y a toujours du manque. Donc ils ont accepté. Et maintenant, je suis un petit peu plus libre, entre guillemets, pour pouvoir et faire mon sport correctement et faire mon travail correctement.
Et Anaïs Kemener, quand on est championne de France de marathon, certes, on remet son titre en compétition chaque année, mais est-ce qu'on est aidé? Est-ce qu'on peut vivre, par exemple, financièrement, uniquement, de votre sport?
Non, on ne peut pas vivre de la course à pied. En règle générale, on peut recevoir, par exemple, quand on se classe très bien sur les courses, des primes de course. Mais généralement, c'est pas l'équivalent d'un salaire non plus. Hein, donc, on peut pas en faire tout le temps, tous les mois, toutes les semaines. Et je pense qu'en France, en tout cas, c'est compliqué d'être athlète. Je parle de l'athlétisme. Hein. Je parle pas de sport en règle générale, mais je parle vraiment de l'athlétisme. C'est compliqué d'en vivre. Et c'est des aides, généralement, soit des primes de course, soit des sponsors.
Et qu'est-ce que ça vous fait, alors, cette disparité entre les sports? Quand on voit les salaires de footballeurs, les salaires de golfeurs ou les salaires d'un marathonien?
J'ai pas vraiment d'avis là-dessus parce que je me dis c'est comme ça, c'est pas moi qui vais changer la donne aujourd'hui, mais c'est vrai que il y a pas vraiment d'égalité dans tous les sports, mais ça a toujours été et aujourd'hui on fait avec ce qu'on a, donc c'est comme ça.
Changeriez pas votre place?
Non.
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 Terrain de golf à la
non,
place
du
marathon, non.
Non, pas du
ça
tout.
Ça vous tente pas?
Non.
Alors Anaïs Kemener, qu'est-ce qui fascine dans le marathon quand on le pratique comme vous? J'aimerais comprendre parce que pour des gens vous êtes des masos,
je vais
le dire, vous
comprends.
Êtes des masos. Courir pendant 42 kilomètres, le premier coureur en est mort. Hein, le coureur de marathon est mort. Donc vous courez et vous y trouvez du plaisir. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous trouvez dans la course de marathon?
Déjà, voilà, il y a tout le côté collectif, il y a tout le côté programme d'entraînement, de pouvoir se donner un objectif, se dépasser. Ça déjà, c'est génial. Et à côté de ça... il y a le côté un peu évasion aussi. C'est-à-dire que quand on est dans sa course, on est un petit peu seul contre soi-même. On pense à plein de choses. Moi, je peux penser à plein de choses en courant. J'ai pas d'idée particulière là, mais des fois, je peux courir en musique. Des fois, je peux courir en écoutant simplement les oiseaux, le vent, le regardant autour de moi.
À l'entraînement, ça.
Voilà. Hein, mais vraiment, la dimension marathon, je pense que c'est un peu comme je dis dans le livre, c'est vraiment le jour de fête. Donc, en fait, c'est ce moment où on s'est bien préparé justement pendant 2 à 3 mois et ce jour-là, on est censé être prêt et du coup, on n'a plus qu'à s'envoler et faire aller au bout de notre objectif.
Vous dites jour de fête, vous allez même plus loin dans le livre, vous dites pour moi, le marathon est une célébration.
C'est ça.
Vous faites belle, vous vous maquillez, ouais. Vous mettez un turban dans les cheveux. Important pour vous de vous faire belle pour aller courir?
C'est important, ouais. C'est important parce que c'est aussi, je pense, mon côté féminine, du coup, qui ressort. Et on a toujours un petit peu mis de côté, ça a toujours été dissocié, le côté féminité et sport. Et moi, je trouve que c'est important de mettre une petite touche pétillante ou un peu féminine, justement, dans le sport. Mmh. Parce que le sport, c'est aussi les femmes. Et les femmes, on a le droit de se faire jolie pour aller courir. Mmh. Moi, je sais que je me maquille tous les jours. Et quand je vais courir, j'aime bien me faire belle.
Et alors, je reviens à une notion... Il nous questionne tous, c'est celle de la douleur. Comment faites-vous quand, lors d'une course, vous souffrez? Parce que vous souffrez, il y a des moments où vous avez mal.
Bien sûr.
Hein, quand on parlait tout à l'heure du cap des 35 kilomètres, souvent à ce moment-là, il y a de la douleur qui arrive dans votre corps, voire parfois des crampes, non? Enfin, comment vous gérez la douleur?
Alors, je pense que au-delà du physique, c'est aussi très mental. Et j'essaie de me raccrocher à tout ce qui me fait du bien. Donc en fait, je vais penser à mon père, je vais penser à mes proches, je vais penser à mon club, je regarde ma montre. Du coup, je pense quand même à mon objectif et je me dis que je vais essayer de terminer le moins loin possible de mes objectifs, même si forcément les chronos s'effondrent un peu parce que quand on est en difficulté, soit on n'est plus dans les allures voulues, soit on est encore tout juste. Mais du coup, j'essaie toujours de garder cet objectif-là en tête et de me dire. Plus que 7 kilomètres, plus que 5 kilomètres. Et je me raccroche à chaque fois kilomètre après kilomètre en me disant, c'est bientôt l'arrivée.
Et la douleur s'estompe? La douleur peut disparaître quand, avec son mental, on pense à des choses positives?
Je, pense qu'elle peut s'atténuer. Après, ça reste quand même une difficulté. Ça m'est jamais arrivé, en tout cas, d'avoir une douleur qui disparaît totalement. Ça reste toujours difficile dans les derniers kilomètres de course. Mais peut-être que si on est moins focus sur sa douleur et qu'on y pense moins, elle disparaît un peu.
Et est-ce que vous vivez parfois des moments d'exaltation, de grande joie, où justement il n'y a plus de douleur, il n'y a que du plaisir, que du bien-être?
Bah, généralement sur l'arrivée de mes courses, oui.
C'est sur l'arrivée?
Sur l'arrivée, ouais. Mmh. Ou peut-être un peu au départ. Au départ, parce que je suis tellement dans l'euphorie que on pense à rien d'autre. En fait, on se dit juste que sur mes départs de course, je pense simplement que je suis là où j'ai envie d'être et que c'est, bah, comme on en revenait au tout début de ce podcast, que du plaisir.
C'est du plaisir pour vous avant tout la course.
C'est ça.
C'est vraiment ça.
Oui.
Est-ce que aujourd'hui, Anaïs Kemener, après les épreuves que vous avez connues liées au cancer, vous célébrez encore plus la vie qu'avant votre maladie?
Complètement. Complètement, parce que chaque dossard que je vais pouvoir porter, chaque presque, alors c'est, je vais un peu dans l'excès si je dis chaque jour qui passe, mais c'est vrai que chaque événement que je vis ou chaque événement marquant, je vais me dire bah j'ai la chance d'être ici, j'ai la chance de pouvoir le faire. Donc pour les courses, c'est pareil. Dans la vie quotidienne, dans tous les actes du quotidien qui sembleraient peut-être un peu, qui sont devenus normaux, bah je me dis que je suis contente et que j'ai la chance de pouvoir le faire et de pouvoir le partager avec mes proches.
Et pour vous, ce que vous vivez, c'est une rémission, une guérison? Comment vous vivez le fait d'avoir eu ce cancer agressif? Et on ne sait jamais, on vit un peu avec une épée de Damoclès, non, quand on a un cancer comme le vôtre?
Complètement. D'ailleurs, comme j'ai eu un cancer triple négatif, je sais que c'est le cancer du sein, en tout cas, qui a le plus gros taux de récidive. Donc, bien sûr, j'ai une épée Damoclès au-dessus de la tête, je pense, pour les futures années encore, pour encore un paquet d'années, parce que j'ai que 33 ans. Mais ce n'est pas très grave, parce que je me dis que j'ai réussi à le vaincre une fois. Et que si jamais ça devait se reproduire, bah je le vaincrai encore une fois, que je suis bien accompagnée, que je sais par quoi je suis passée. Et s'il faut repasser par là, malheureusement, bien sûr, je repasserai par là, mais ça ira.
Et vos objectifs alors pour l'avenir de coureuse, de championne, de marathon, qu'est-ce que c'est? Votre rêve, qu'est-ce que ce serait?
Eh ben, mon rêve, si on doit aller vraiment dans ce sens-là, je me dis que je vais continuer à m'entraîner comme je le fais aujourd'hui, en 2026, 2027, et pourquoi pas une sélection pour les Jeux Olympiques 2028.
C'est votre objectif?
Ça reste un objectif en ligne de mire, et je me dis que tant que je le garde en vue, c'est que tout va bien.
Ouais. Eh ben, écoutez, je vous le souhaite de tout mon cœur, Anaïs Kemener. Je voudrais juste, pour terminer, il y a des gens qui nous écoutent, là, des femmes peut-être qui ont le cancer, des hommes aussi. Qu'est-ce que vous aimeriez leur dire? Quel message essentiel vous aimeriez passer à celui ou celle qui nous écoute là en ce moment et qui a un cancer?
Eh bien, surtout, c'est d'être bien accompagné, de s'entourer et de faire quelque chose qui nous passionne. Donc vraiment, le plus important, je pense que c'est vraiment de maintenir ce lien social. Parce que quand on est avec du monde, alors ça peut paraître des instants très courts, mais je pense que si même une heure dans la journée où on oublie la maladie, bah, c'est déjà énorme. Et il faut vraiment s'entourer de personnes positives, bienveillantes et qui nous apportent que du bien.
Eh bien, merci beaucoup, Anaïs Kemener. Le message est passé. Puis je renvoie les auditeurs, malades ou non, oui, bien sûr, à ce livre. Tout ce que je voulais, c'était courir, que vous avez coécrit avec Franck Berthaud, qui est ici à oui, nos côtés. Et un livre qui se lit de manière très, très fluide, très agréable. On trottine avec vous. On vous suit, on vous suit dans les bons et les durs moments de votre vie. Un livre publié aux éditions Flammarion.
Merci beaucoup.
Cette émission Visage vous a été proposée par Thierry Lyonnais, réalisation technique Nathan Faure.